Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François fustige les marchands de chair humaine. En cette 100e journée mondiale des migrants, le Saint-Père a demandé au pays d'accueillir les immigrés et les réfugiés. Le monde de la migration a une place spéciale dans son cœur. Il souhaite un changement d'attitude de la part de tous. C'est bien sûr la une de ce magazine. Contrairement à ce qu'affirment de nombreuses études sociales, nos contemporains ne sont pas étrangers au Christ. L'aumônier international du scoutisme, Jacques Gagé, en est convaincu. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Le pape François a dénoncé ce dimanche les marchands de chair humaine qui traitent les immigrés comme des esclaves. Le Saint-Père s'adressait aux fidèles rassemblés comme tous les dimanches à midi sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Commentant l'évangile de ce dimanche, il a mis en garde l'Église contre l'orgueil et la recherche du prestige en l'invitant au contraire à choisir comme Jésus l'humilité et le service. Le compte-rendu de Jean-Baptiste Cocagne.
Pour le pape François, la communauté des chrétiens ne peut pas vivre comme une citadelle assiégée ni assumer des attitudes de fermeture. Il la conçoit au contraire comme une ville placée au sommet d'une montagne, ouverte, accueillante et solidaire. L'Église du Christ, disciple de l'agneau de Dieu, a-t-il martelé, est appelée à remplacer la malice par l'innocence, la force par l'amour, l'orgueil par la modestie, le prestige par le service. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, c'est donc une nouvelle leçon d'humilité et de simplicité que le souverain pontife a donnée à l'Église catholique. C'est par l'amour que Jésus a triomphé du mal et nous a libérés de l'esclavage du péché, a-t-il rappelé. L'agneau auquel Jésus est comparé dans l'Évangile n'est pas un dominateur agressif, c'est un animal soumis, docile et pacifique qui ne montre pas les dents ni les griffes à la moindre attaque. La masse énorme du mal est éliminée par une créature faible et fragile, symbole d'obéissance capable d'aller jusqu'au don de soi. Enfin, à l'occasion de la célébration ce dimanche de la Journée mondiale des réfugiés et des migrants, le pape François a tourné ses pensées vers les nombreux migrants et réfugiés dans le monde, souvent privés d'emploi ou de papier. Il a appelé les nations à les accueillir en respectant les valeurs de leur culture d'origine. Des communautés d'immigrés étaient d'ailleurs présentes sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père les a salués avec affection, en particulier les communautés catholiques de Rome. « Vous êtes proches du cœur de l'Église », leur a-t-il dit. « Ne perdez pas l'espoir d'un monde meilleur ».
Et dans l'après-midi de ce dimanche, le pape François s'est rendu dans une paroisse romaine située à proximité de la Grande Gare Termini. Dans ce quartier du centre-ville où l'on côtoie la dure réalité des marginaux, cette paroisse vient en aide à de nombreux immigrés ainsi qu'à des SDF. Le Saint-Père les a rencontrés avant de célébrer la messe. Quelques 400 jeunes réfugiés et demandeurs d'asile venus de pays comme la Somalie, l'Irak, le Congo, la Syrie ou encore le Soudan fréquentent le service d'accueil de cette paroisse où ils se sentent un peu comme chez eux, où leur dignité est respectée et où ils peuvent nouer des rapports d'amitié. Ils peuvent également y suivre des cours d'italien et de formation, ainsi qu'une aide pour trouver un emploi. Certains d'entre eux sont passés par Lampedusa. Dans son message pour la 100e journée mondiale du migrant célébrée ce 19 janvier, le Saint-Père a appelé à passer d'une culture du rejet à une culture de la rencontre. Nous vous proposons de découvrir la contribution apportée par le CCFD Terre Solidaire, la première association française de développement. Comment perçoit-elle l'accueil réservé aux migrants en France, de passage à Rome dans le cadre d'une visite aux différents dicastères de la Curie? Son président, Guy Orange, a répondu aux questions d'Hélène Destombes.
La France a du mal avec l'étranger. Et pourtant, elle est faite d'étrangers. Sa richesse, sa diversité, je pense le plaisir d'être, de vivre en France vient beaucoup de toutes ces rencontres d'étrangers, de cultures différentes. Donc, contribuer à changer les mentalités françaises, en plus nous sommes en période électorale, si on pouvait ne pas faire de l'étranger un instrument pour gagner les élections et les faire perdre aux autres, ça serait quand même mieux. Et donc, eh bien là, c'est par exemple un fascicule que nous avons édité, c'était il y a quelques mois, sur l'accueil du frère qui vient de loin. Ce fascicule, c'est de dire, voilà, l'immigration, ça a toujours existé, et ça n'existera que de plus en plus dans un monde mondialisé. Si on pouvait voir le frère qui arrive autrement que comme une calamité ou comme une menace. Et puis ensuite, alors là, soyons responsables, comment est-ce qu'on travaille, se vivre ensemble? Comment est-ce qu'on les aide, non pas à s'assimiler, j'aime pas l'expression assimiler, mais à s'intégrer dans les sociétés. Et puis, deuxième aspect, et nous en avons parlé avec le dicastère sur les migrations, justement, c'est de réfléchir à l'immigration au niveau international. Parce qu'il faut quand même que nous sachions que la plus grande partie des migrations, ça se fait de sud à sud. C'est les pays les plus pauvres qui accueillent le plus de migrants. Il faut réfléchir, déconstruire le mécanisme migratoire d'aujourd'hui, un, pour ne pas en avoir peur, et puis deuxièmement, pouvoir agir politiquement, socialement, économiquement.
Très concrètement, sur le terrain, comment le CCFD contribue-t-il à créer ces fondements, les fondements d'une culture de la rencontre ?
Alors là, c'est, je dirais, les équipes locales, dans les paroisses, dans telle ou telle communauté chrétienne, à la fois sensibiliser nos chrétiens, parce qu'ils ne sont pas toujours à la pointe du combat, de l'accueil de l'autre, donc là aussi il faut se dire des choses. Et puis ces mêmes communautés vont aller rencontrer des non-chrétiens, bien évidemment dans les départements, dans les diocèses, et parfois ça va donner quoi ? Ça va donner une démarche auprès d'un maire, une démarche auprès d'un député. Et ça c'est très important, parce que le jour où une opinion publique, je dirais de base, de terrain, pas simplement ceux qui réfléchissent dans les bureaux, mais une opinion publique va dire à son maire, mais attendez, nous l'étranger, ça ne nous fait pas forcément peur. Pouvoir le dire à nos responsables politiques, c'est essentiel. Donc voilà, un travail, on dit souvent ça au CCFD Terre Solidaire, un travail de fourmi, qui petit à petit tricote des mentalités différentes. Donc vous voyez, à la fois une conversion personnelle, une conversion dans des communautés, et puis une expression parfois, oui, sociale ou citoyenne auprès d'un maire, auprès d'une députée, auprès d'un responsable.
On sent aujourd'hui en France des frictions, des tensions, des débats qui ont divisé l'opinion.
Le problème, c'est ce qu'on appelle d'un mot compliqué, c'est la stigmatisation. Mais la stigmatisation, ça veut dire tout simplement qu'on déshumanise quelqu'un. Le jour où je peux en France, il faut quand même oser se le dire, mettre un enfant d'étranger dans un camp de rétention, un enfant de 2 ans, de 5 ans. Pourquoi ? Parce que son papa n'a pas de papier. Mais j'ai oublié que j'avais affaire à un petit bout de chou qui ne peut pas être en prison, point barre, c'est tout. Donc à nous de trouver d'autres solutions.
Maître Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire. Et à l'occasion de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, le père David Neuhaus, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour les catholiques de langue hébraïque, a lancé un appel à la solidarité avec les réfugiés en Israël en critiquant leur gestion par l'État. Dans un entretien à la fondation AED, Aide à l'Église en détresse, le père Neuhaus déplore le langage blessant utilisé en Israël par des personnalités politiques et par certains médias qui considèrent les demandeurs d'asile comme des infiltrés alors qu'il s'agit de personnes qui ont fui pour sauver leur vie. Ces derniers jours à Tel Aviv, des milliers de migrants ont manifesté devant le Parlement pour protester contre la législation israélienne en matière de politique d'asile. La Knesset a récemment adopté un amendement de la loi anti-infiltration stipulant que des migrants entrés illégalement en Israël et ne pouvant pas en être immédiatement expulsés pourraient être internés dans des camps de détention ouverts. Au total, environ 53 000 demandeurs d'asile africains séjournent actuellement en Israël. Ils sont principalement originaires d'Érythrée et du Soudan. Quelques 40 000 d'entre eux sont chrétiens, principalement orthodoxes. Samedi soir, à la résidence Sainte-Marthe au Vatican, le pape François s'est longuement entretenu en privé avec un petit frère de Jésus, âgé de 101 ans, Arturo Paoli, bien connu pour son engagement religieux et social en faveur des pauvres, en Italie mais aussi en Amérique latine où il a vécu pendant 45 ans. Frère Paoli a notamment passé 14 ans en Argentine de 1960 à 1974. Pendant cette période, il a eu l'occasion de faire la connaissance du père Bergoglio, qui était alors provincial des Jésuites. Contraint de quitter l'Argentine à l'époque péroniste, il a vécu au Venezuela puis au Brésil avant de regagner l'Italie en 2005. Arturo Paoli vit actuellement dans une petite maison consacrée à Charles de Foucault, près de Lucques, sa ville natale en Toscane. Il y a quelques semaines, il avait manifesté son souhait de rencontrer le Saint-Père. Son désir a donc été exaucé. L'entretien personnel, ample et serein, a duré près de 40 minutes. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a commencé ce samedi. Elle se poursuivra comme tous les ans jusqu'au 25 janvier. Le thème de cette semaine 2014 a été élaboré au Canada. Le Christ est-il divisé ? L'Église est unique, mais elle n'est pas unie. Plusieurs déchirures se sont produites au long des siècles. Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n'ont cessé de se diviser en de multiples églises et communautés ecclésiales séparées. Au début du XXe siècle, le mouvement s'est inversé. Depuis 1908, la semaine de prière s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier. En France, à l'initiative du Conseil d'Église chrétienne, les collectes de la semaine 2014 seront recueillies au bénéfice des chrétiens en Égypte. L'invité de ce dimanche est le père Jacques Gagé, aumônier de la Conférence internationale catholique du scoutisme. Il a été entre autres aumônier de la Coordination nationale des jeunes professionnels chrétiens et il a participé à l'animation des Journées mondiales de la jeunesse de Paris. En 2007, il a écrit un livre sur la nouvelle intériorité aux éditions du Cerf, dans lequel il affirme que nos contemporains ne sont pas étrangers au Christ, comme le disent de nombreuses études sur nos sociétés. Interrogé par Catherine Aubin, Jacques Gagé revient sur les questions que les hommes se posent sur la foi et la pratique religieuse et sur son rôle comme aumônier international du scoutisme.
Père Jacques Gagé, ça fait au moins une bonne trentaine d'années que vous êtes prêtre et dans les responsabilités que vous avez eues, vous avez été à la Coordination nationale des jeunes professionnels chrétiens, vous êtes actuellement aumônier de la Conférence internationale catholique du scoutisme. Et vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « La nouvelle intériorité ». Quel est le lien entre ces responsabilités au cœur de l'Église et ce livre ?
J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait beaucoup s'intéresser aux nouvelles générations parce qu'on vit dans un monde extrêmement nouveau. Comme Européens, on est particulièrement déconcerté par le monde. Et comme chrétien, comme prêtre, un peu soucieux de la foi, quoi. On a essayé de comprendre, depuis que je suis prêtre, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, d'avoir une vision franchement positive.
Alors quand vous dites, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui était en train de se passer. En train de se passer où, comment, dans quel contexte
Dans le monde, en fait. C'est comprendre le mouvement qui passe du 20e au 21e siècle. C'est ce que j'ai toujours voulu savoir. J'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce qui se passait depuis 50 ans, qu'est-ce qui avait tourné. Et le point de départ, c'est pourquoi les jeunes ne sont plus des pratiquants ou bien pourquoi les jeunes ne sont plus des confessants. Et avoir une vision franchement positive de ça. Et en fait, j'ai été chercher des racines de compréhension de l'intuition favorable que j'avais du monde présent à partir d'une vue plutôt européenne au départ. Et donc, j'ai été chercher... un peu la spiritualité, le tournant de la spiritualité un peu à la sortie de l'Europe moderne, c'est ce qui a commencé d'arriver. J'ai voyagé beaucoup aussi, et puis j'ai cherché ce que disait, j'ai écouté ce que disaient les jeunes générations, donc les jeunes adultes, j'ai développé
Alors
ça.
Alors justement, vous avez été à la Coordination nationale des jeunes professionnels chrétiens. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, des jeunes professionnels chrétiens? Comment ça vous est venu?
C'est quelque chose qui m'est venu... parce que je cherchais avec eux, je cherchais à savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui la pratique chrétienne effective. Beaucoup de nos contemporains sont largement concernés par le christianisme, même si leurs pratiques chrétiennes ne sont pas élucidées, et même si leur certitude, disons, dogmatique, ne sont plus aussi affûtées, disons, qu'il y a 50 ans. En quoi ils sont vraiment les vrais bons héritiers du Christ? J'ai beaucoup cherché ça. Et donc, j'ai beaucoup aidé, en fait, j'ai essayé du moins, ces nouvelles générations, à prendre patience, à se comprendre comme des chrétiens, même si leur réaction n'était pas toujours celle que l'Église organisée aurait voulu qu'ils aient. Et même si, de fait, les temps qui durent ne démentent pas certaines différences, disons, dans la manière de se poser religieusement et chrétiennement par rapport à ce qu'elle était dans un temps qui n'est pas lointain, quel temps de, disons, de la France catholique, je dirais. C'est ça. On peut prendre ça par tous les bouts. Ça m'amène dans le scoutisme très facilement.
Alors justement, parlez-nous du scoutisme. Ça vous est venu comment, le scoutisme?
Là, j'étais nommé. Mais ça correspondait très, très bien. J'ai été très touché de voir que tout ce que j'ai pu faire au Scout et Guide de France, tout ce que je pensais, tout ce que je portais, disons, ils le prenaient.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous portez?
Je ne sais pas si c'est moi qui porte, c'est en tout cas les choses qui me meuvent, quoi. Le sentiment qu'on est plutôt dans une époque un peu post-missionnaire et pas tout à fait dans une époque missionnaire. C'est-à-dire une époque qui a été là complètement touchée par le christianisme, en fait, qui a fait un peu le tour du monde, qui a fait que beaucoup de gens, sans pour autant devenir des chrétiens, des obédients, on va dire, pourtant, sont tous convaincus que la famille humaine est une famille, quoi. Ils sont tous plus ou moins profondément épris de l'expérience d'avoir été visité par des gens qui vous considéraient comme faisant partie de la famille, quoi. Et donc ce sentiment de famille humaine, de taille humaine, ça a créé en fait cette espèce de circulation du 20e et 21e siècle qui n'est plus une circulation missionnaire, qui est une circulation qui va dans tous les sens, c'est comme un mouvement brownien comme ça, qui est lié au fait que les portes sont ouvertes par les missions et qui fait que les gens vont partout et que le pluralisme s'installe partout. Et très précisément, surtout, le pluralisme religieux, ce qui est la chose la plus profonde et la plus impressionnante du point de vue du mouvement de l'humanité. Et ça, c'est une donnée massive qui en fait représente, à mon opinion, pour le christianisme un peu son avenir, c'est-à-dire d'être un petit peu l'inspirateur de cette confraternité religieuse du monde, quoi. Voilà, qui fait que j'ai retrouvé ça dans le scoutisme, parce que le scoutisme est justement né justement à la sortie de l'ère missionnaire. Et le scoutisme justement représente une espèce de fraternité des religions qui ne se comprend pas et qui doit tout au mystère du christianisme qui a plus ou moins enveloppé le monde. L'humanité est un nouvel espace qui est visité concrètement et qui se réorganise de façon complètement différente et qui déconcerte complètement le monde occidental. Les Européens qui ont été vraiment les grands distributeurs d'un message de fraternité familiale fondé sur l'Évangile, ils sont dépassés par la pluralisation générale de l'espace, des espaces nationaux.
Vous employez le mot pluralisme et aussi dans vos écrits, dans vos conférences, il y a une expression qui revient souvent. Vous aimez beaucoup dire par l'intérieur, être creusé l'intérieur. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes en train de dire ?
Moi, ça m'est très agréable que vous disiez ça, parce que je me sens compris. Parce que si on veut bien savoir ce que c'est que l'intériorité, c'est l'endroit de la personne qui est affectée d'une façon décisive pour son unité personnelle par ce qui est le plus différent. L'intériorité, c'est l'endroit où le monde, dans sa diversité, me promeut comme singularité. C'est ça l'intériorité. Donc il y a un rapport étroit entre le fait qu'aujourd'hui on en parle, les gens qui sont très, très attentifs, très sensibles à la réalité présente aiment bien parler d'intériorité. Et c'est normal que les mêmes personnes parlent d'intériorité et parlent de diversité ou de pluralité. C'est lié. L'intérieur, c'est l'endroit où le moi est affecté d'une façon vitale par ce qui n'est pas lui. Donc c'est pas l'autre, ce qu'on dit l'autre, c'est quelque chose qu'on peut conceptualiser, qu'on croit tenir dans sa main philosophiquement, mais c'est la diversité, c'est-à-dire c'est une multiplicité d'altérité, c'est un espèce de nouveau paysage vital d'altérité qui est devenu complètement surabondant et qui en fait affecte l'être et lui confère une singularité ou une solitude supplémentaire.
Alors est-ce que ça rejoint aussi ce que vous dites ça et là, quand vous dites laissez Dieu prendre sa part dans sa présence aux autres, Dieu est une venue permanente qui incline nos êtres et la douceur de Dieu finit par faire incliner la partie paisible de l'homme.
Une chose que je pense, c'est que, en fait, si on trouve bel et bien Dieu dans un rapport personnel et un rapport proprement singulier, quand on se livre à la diversité, celui qui veut bien se livrer à la diversité va trouver Dieu comme le chef de famille, si vous voulez.
C'est ce qui correspond à notre Père.
Voilà, notre Père. Et donc, une des grandes difficultés que l'on a, c'est dans une compréhension, disons, qui est un peu restée dans la vieille grande époque qui était la sortie de la chrétienté, la sortie du Moyen-Âge, qui était une époque dans laquelle l'âme se percevait dans sa relation intime et personnelle avec Dieu et n'arrivait pas à comprendre que cette intuition était liée avec un sentiment très profond de la cohésion de la chrétienté qui était le tout de la réalité. L'âme de la sortie du Moyen-Âge, c'est l'âme d'un monde extrêmement collectif. De la même façon, l'âme du XXIe siècle, c'est l'âme du monde pluriel. C'est-à-dire que sa famille, c'est le monde pluriel. Et pour que l'âme se retrouve elle-même affirmée dans sa liberté la plus belle, il faut qu'elle soit corrélée de la façon la plus vivante avec cette réalité de la diversité du monde. Et de fait, voilà, c'est pourquoi le pèlerinage vers Dieu aujourd'hui, c'est un geste de confiance dans le monde pluriel.
Est-ce que vos responsabilités avec les jeunes chrétiens professionnels et dans le scoutisme se situent dans cet accompagnement d'un pèlerinage ?
Certainement, moi je trouve que ce qu'elles ont à faire, c'est de prendre possession de l'humanité plurielle comme leur famille. C'est un travail infini, une vie n'y suffira pas, parce qu'il y a trop. Il y a trop de différences, on ne peut pas du tout aller à la rencontre de tout ça. C'est un peu comme, si vous voulez, le meilleur chrétien est celui qui sort de l'église et qui s'en va de par le monde et il n'a pas le temps de revenir à l'église. Et on voit bien que la façon dont notre pape parle aujourd'hui, et on voit bien, on sait bien comment il fait, il ne parle pas pour les chrétiens, il parle pour tout le monde. Donc il ne se présente pas comme celui qui prend possession de l'humanité, mais comme celui qui partage le destin de l'humanité en parlant comme ça à fond perdu à une humanité qui ne cesse de se complexifier.
Et c'est sur cet entretien avec le père Jacques Gagé, aumônier international du scoutisme, que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bonne semaine à tous.